journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs. J'espère que vous allez bien. Le JDA, hein, c'est l'émission d'Africa numéro 1 dans laquelle vous avez la parole. Et aujourd'hui, c'est la libre antenne. Hein, c'est vous qui faites le sommaire. C'est vous qui choisissez les sujets sur lesquels vous souhaitez vous exprimer. Un petit tour du côté du standard. On va revenir sur l'enjeu des locales. Le vote, c'est demain en Côte d'Ivoire. VKM, hein, depuis Lubumbashi, nous parlera des Congolais expulsés d'Angola. Serge nous dira un mot normalement sur la prestation du Golioriste hier en équipe de France. Serge rappelle que Golioriste avait été condamné il y a quelques temps par la justice britannique. Alors, pour intervenir, nous parler du sujet de votre choix, composez le 01 55 07 58 00, 01 55 07 58 00. Avant de vous écouter en direct, direction le répondeur pour une sélection des messages que vous nous avez laissés.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Oui, allô, bonjour, madame Hartmann. Je voulais laisser des messages à propos des magistrats qui sont en grève au Mali. Je dis à mes frères maliens, je suis très content, les magistrats qui n'ont pas reçu leur salaire de 10 milliards de francs CFA, parce que ces magistrats, ils sont à leur président, qui sont à côté de Ibrahim Boubacar Keïta pour le deuxième mandat. Ces magistrats, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont faits pour être magistrats. Quel diplôme, quelle honte, des égoïstes, que les magistrats, ils ont bien compris que leur président, qui sont à côté de l'IBK, qui sont corrompus, et le pays, ça va très mal. Et l'honorable Ousmane Sissé, il a bien dit que M. IBK, il a triché. Malgré tout, les magistrats ont continué à installer un président corrompu. Merci beaucoup, JDA.
Un message pour Kabila. Je ne comprends pas pourquoi voulez-vous que le soldat des Nations Unies quitte le Congo avant les élections. Parce que vous envisagez des fraudes électorales et avoir la main facile à tuer librement les Congolais protestateurs. Kabila, vous n'aurez plus le champ libre de massacrer la population congolaise. Cette fois-ci, la Cour internationale devra vraiment jouer son rôle d'arrêter l'auteur des tueries. Madame Hartmann, je vous prie de passer mon message. C'est Henri.
Oui, bonjour amis auditeurs. Je condamne avec la plus grande fermeté les menaces de M. Kone Zakaria à l'endroit de M. Kalou Bonaventure à Vavoua. Moi, je trouve cela regrettable et je voudrais que le ministre de la Défense prenne des sanctions contre ces rebelles. Moi, en août dernier, M. Kalou Bonaventure a organisé une manifestation de football à Vavoua, où cette manifestation auquel j'étais invité. Il a invité les anciens gloires du football ivoirien, tels que Youssouf Fofana, Lignon Nagbe, etc., etc. M. Kalou Bonaventure a beaucoup de projets pour Vavoua. Il pense beaucoup à sa ville natale. Donc, c'est un monsieur que moi, je soutiens fermement. Moi, je demande aux habitants de Vavoua de voter M. Kalou Bonaventure. Parce que ce monsieur a beaucoup, beaucoup de projets pour la ville de Vavoua. Idriss, bonne journée.
Bonjour. Qu'on le veuille ou pas, Emmanuel Macron, le Kylian Mbappé de la politique française, porte chance à ce pays. Dès son élection, le stade de la Licorne à Amiens, sa ville natale, fut enchanté car l'équipe de foot de cette ville monta en première division pour la première fois. Puis il y a eu la fameuse épisode de la Coupe du Monde de football, ensuite la Coupe Davis et d'autres trophées, et tout récemment le golf à Paris contre les Américains. Je ne suis pas contre les sondages, mais il faut vérifier la véracité des sondeurs. Car un sondeur qui ment est capable de détruire intentionnellement l'ascension d'un président et artificiellement et faussement sa crédibilité auprès des Français et ainsi orienter l'opinion de ces derniers. Or, les Français n'ont pas élu un sondeur, mais un président. Autrement, ce n'aurait plus été une démocratie, mais une sondocratie. Merci.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci à tous pour vos messages. Vous pouvez désormais intervenir en direct dans le JDA en nous appelant. Je rappelle le numéro 01 55 07 58 00. Attention, voilà, aujourd'hui dans le JDA, c'est la libre antenne. Un petit tour du côté du standard. Je demande à Vekam de patienter encore un peu. Il va nous dire un mot sur les Congolais expulsés d'Angola. Avec Nouakou et Hassan, on parlera du retour du Rwanda, premier plan de l'OIF et l'élection de Louise Mushikiwabo. Mais on commence tout de suite avec les élections locales en Côte d'Ivoire. Vous êtes nombreux à vouloir en parler, notamment pour dénoncer le climat de violence qui a régné, peut-on dire, puisque la campagne est terminée, durant cette campagne. On commence avec Kossou. Kossou, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour, Stéphanie Hartmann. Bonjour, Africa Numéro 1. Je voudrais donc rebondir sur déjà ce que un compatriote venait de dénoncer, le comportement de Kone Zakaria. Mais avant, il faudra dire que toute la Côte d'Ivoire, avec le ministère de l'Intérieur, est complice de cette violence, y compris le RDR, le parti du sanguinaire Alassane Ouattara. Pourquoi ? Parce que comment comprendre qu'un ministre de l'Intérieur ivoirien, malgré les décès, les morts, la violence, peut dire sur des antennes ivoiriennes qu'il y a des morts, mais ce n'est pas grave, les élections auront lieu. Ce n'est pas bien. Et nous voyons aujourd'hui, avec l'absence du FPI, que le RDR est un parti qui ne peut gouverner que par la violence et dans la violence. Voilà un rebelle qui n'a pas de formation, qui n'a jamais reçu de formation, qui a simplement eu l'appui de la France pour prendre le pouvoir, qui était installé à Vavoua, qui va en campagne, alors que la loi même militaire interdit que les militaires s'immiscent dans les campagnes électorales. Il va à Vavoua et il menace l'international Kalou Bonaventou en lui demandant de retirer sa candidature sous peine de d'être violenté ou même sous peine de trouver la mort.
Ce que vous dites en fait, Kossou, c'est que finalement ceux qui étaient dans la rébellion jadis ont du mal à quitter leurs vieilles habitudes et...
Oui, c'est ce que nous voyons. Il est même parti à Vavoua avec son arme au poing. Ce monsieur est parti avec son arme au poing et devant le peuple, devant tout le monde, a menacé Kalou Bonaventou et a demandé même à tous les candidats indépendants de retirer leurs candidatures de sorte que lui, son candidat ou sa candidate puisse briguer et prendre, être maire de la commune. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas s'accepter. Et vous comprenez que on disait hier que oui, c'est Laurent Gbagbo qui était l'homme de la violence en Côte d'Ivoire. Le RDR et le PDC qui ont été des alliés sont en compétition et voilà le désordre total en Côte d'Ivoire. Vous comprenez, si le FPI était là, tout le monde entier, la communauté internationale allait dire que c'est le parti de Gbagbo qui était en train de semer la violence en Côte d'Ivoire. Nous avons mal parce qu'aujourd'hui...
On a bien compris, Kossou. Je vous interromps, Kossou, parce que vous êtes nombreux à vouloir en parler. Il y a même Kissi, il y avait M. Camara, mais on ne l'a pas eu, il a raccroché M. Camara, qui voulait effectivement dénoncer ce climat de violence en Côte d'Ivoire durant la campagne. On a vu aussi du côté de Guiglo, il y a eu des affrontements avec des blessés. Merci, Kossou. Madame Kissi, bonjour.
Bonjour,
Madame Kissi. Vous êtes d'accord qu'avec Kossou, je crois que c'est peut-être vous qui avez même dépassé un message il y a quelques jours sur le répondeur. Que présage, que signifie ces tensions, cette violence à 2 ans de la présidentielle? Est-ce que ça vous effraie?
Bon, oui, effectivement, ça m'effraie. Et puis, je me rends compte qu'ils ne sont pas prêts à faire la paix. Ils ne sont même pas prêts à faire choses comme ça, à parler de la réconciliation. Parce que je me rends compte que c'est dans la violence même qu'ils se sentent mieux.
Est-ce que ce n'est pas le climat politique global en Côte d'Ivoire qui est finalement violent?
Non.
Est-ce que finalement le conflit n'a pas marqué durablement?
Mais Madame Stéphanie, ce n'est pas la première fois qu'on fait une élection en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la première fois. Nous, là, on a grandi dedans. J'ai vécu en Côte d'Ivoire. Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. C'est depuis que Alassane Ouattara est venu dans notre pays que tout ça, on a basculé dans le chaos. Et il n'y a que par la violence qu'ils peuvent s'exprimer. Mais on ne peut pas On ne peut pas. Là, là, ils ne cherchent même pas la réconciliation. Hein, parce que si les Ivoiriens se réconcilient, ça ne va pas les arranger. Vous voyez comment ils ont découpé les gens?
Est-ce que vous avez confiance, Madame Kissi, dans la tenue du scrutin et dans son déroulement? Est-ce que vous allez faire confiance aux résultats qui seront donnés?
Non, je ne ferai même pas confiance aux résultats parce que si ceux-là ils gagnent, ça veut dire qu'ils ont vraiment fait valoir leur violence. Parce que ceux-là, à temps normal même, là, si l'Ivoirien, le propriétaire terrien même veut se mettre dans cette campagne-là, eux-là, ils ne vont pas gagner. Ils ne vont pas gagner. On les a vomis. Il n'y a que par la violence qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent là.
On verra les résultats, hein. Espérons qu'ils soient donnés plus tôt d'ailleurs que ceux du Cameroun, même si ce n'est pas le même degré d'élection, puisqu'il s'agit d'élections municipales et régionales. On aura l'occasion d'en reparler ce soir. On va finir, clore ce sujet. Merci Madame Kissi, bonne journée à vous. On va clore ce sujet sur la Côte d'Ivoire avec Souleymane, et juste après on parle de l'OIF. Souleymane, bonjour.
Oui, bonjour Madame Stéphanie.
Bonjour Monsieur Souleymane. Vous avez fait le même constat. Hein. Pardon, excusez-moi,
oui,
je vous interromps.
Oui, bonjour à tous les personnels d'Africa numéro 1 et bonjour à tous les auditeurs. J'aimerais ici, à travers votre radio, m'adresser aux Ivoiriens. Le 13, c'est-à-dire demain, il y aura des élections en Côte d'Ivoire, mais déjà, depuis 2 semaines, ça rime avec violence jusqu'à perte de vie parce qu'il y a un Ivoirien qui a été assassiné à cause de ces élections. Triste constat, quand l'on a dit que Gbagbo et le FPI, surtout Charles Goudé, étaient les porteurs de la violence et du gemme de la violence politique en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce dit aujourd'hui quand ces personnalités ne font pas partie du jeu politique actuel? C'est une honte. Pour nous qui avons bataillé dur pour le pouvoir de Hassan Dramane Ouattara, nous déchantons aujourd'hui. C'est pour ça que j'en appelle ici aux Ivoiriens qui iront aux urnes le 13 d'aller voter, mais par contre, de voter et d'y rester, afin de sécuriser leurs votes. De sécuriser leurs votes. Madame Stéphanie, je vais terminer très rapidement. Merci. Parce que ici, quand nous voyons les intimidations, et je vais paraphraser, n'est-ce pas, le premier auditeur, de M. Zakaria Kone, qui ose menacer, et qui va même dans le fief de sa femme, à Séguélon, menacer une candidate indépendante qui était obligée de retirer sa candidature par un forcing de l'appareil d'État RDR, et l'appareil militaire, n'est-ce pas, Zakaria Kone, pour moi, c'est une régression démocratique en Côte d'Ivoire. Donc, les Ivoiriens qu'ils aient voté et que surtout Abobo ne soit pas donné à M. Ahmed Bakayoko. Je vous remercie et bon week-end.
Bon week-end à vous, Souleymane. Merci, Souleymane, qui appelle à l'apaisement et aussi qui appelle les Ivoiriens à surveiller leur vote, voter et rester. Je demande à M. Diarra de patienter. Hein, M. Diarra veut nous parler du Mali et du découpage électoral. On va le prendre dans quelques instants. Il y a Malik aussi qui patiente. On va lui demander de patienter. Avant cela, on se dirige... On va d'abord écouter Nwaku qui va réagir à l'élection. L'élection, est-ce qu'on peut parler vraiment d'élection? C'est pas sûr. De la nomination de Louise Mushikiwabo, ministre des Affaires étrangères du Rwanda, désormais secrétaire général de la francophonie, nommée par consensus, puisque le Canada avait retiré son soutien à l'ex-secrétaire général Michael Jean. Nwaku, bonjour.
Oui, bonjour, c'est bien Nwaku.
Nwaku,
donc je suis du Congo, Brazzaville. Bon, beaucoup d'amis africains savent que le Rwanda s'est retiré petit à petit de la francophonie. Ils se rendent compte qu'il n'y a rien de bon qui se passe dans cette organisation. Et encore, en juin 2017, si je ne me trompe pas, juin 2017, j'avais suivi l'intervention d'un général d'un haut gradé français qui était intervenu sur France Info. J'ai bien des références, France Info, la radio France Info, qui était en place lors des massacres du génocide de 1994 au Rwanda. Il était en place en tant qu'officier supérieur. Mais en son âme et conscience, il avait témoigné en ce juin 2017 comment la France avait armé les milices Hutus pour exterminer les Tutsis. On avait même voulu étouffer ce général, mais quand même, il a fait l'effort, vraiment pour sa conscience, de dire la vérité. Et maintenant que le Rwanda se retire de la francophonie, voilà la France qui se met encore derrière pour aller chercher Mme Louise Mushikiwabo. Mais ça, c'est honteux, ça. Je crois que certains qui ont déjà lu qui ont déjà lu l'œuvre de monsieur Seydou Vadian, je crois. Non, Ferdinand Oyono, le Camerounais Ferdinand Oyono, je crois. Le vieux nègre et la médaille. Ce sont les mêmes histoires qui reviennent. Aujourd'hui, on vous tend la pêche, on veut dire qu'on vous, on vous couronne, voilà la médaille que vous méritez. Mais une moindre erreur ou une moindre faille, on se retourne contre vous. La France, c'est ça. C'est toujours ça à tout moment. Moi, j'aurais souhaité que cette femme décline l'offre d'Emmanuel Macron, de la France, quoi. Et ça ne valait pas la peine.
Vous y voyez finalement une manœuvre de la France pour se rapprocher du Rwanda. J'imagine, Nwaku, que le Rwanda doit bien voir son intérêt à rejoindre cette francophonie et à mettre une compatriote à la tête de l'organisation.
Ben oui, ben sauf que nous, Africains, je crois qu'on recule trop. Quand on veut faire un bon pas, avec des paroles mielleuses ou des petites actions, je sais pas, pleines d'intentions ou de mauvaises intentions, on décline, on se décline. On s'incline, j'allais dire, on s'incline. Bon, mais ça, c'est pas. C'est comme ça que nous avons raté les indépendances. Pendant le moment des indépendances, les années 1960, on était tout chaud. Et on arrive à décrocher certaines libertés, l'indépendance, la chasse de ceux qui nous faisaient du mal. Mais à un certain moment, quelques moments, on oublie très vite la mémoire d'Anne. On oublie très vite et puis rapidement, bon, voilà, il y a quelques gens qui viennent encore derrière nous, qui viennent nous souffler à l'oreille. Bon, voilà, on accepte cette indépendance. Voilà pourquoi beaucoup de présidents sont là actuellement. Ce sont des traîtres, c'est ça. Ils sont à la merci de la France. C'est ça le défaut.
La trahison des clercs.
Je suis francophone, mais vraiment, on a mes consciences. J'admire bien les pays anglophones. Ils ne sont pas parfaits. Mais quand je vois le Ghana, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya, vraiment, moi, ça me fait plaisir, quoi. Ça me fait plaisir. Mais malheureusement, la France n'est jamais souple dans les révolutions.
C'est peut-être les pays anglophones qui ont un autre rapport aussi avec l'ancien colonisateur. Je vous remercie, Nwaku, de votre participation. Je m'excuse si j'ai écorché votre prénom. Alors, le livre de Ferdinand Oyono que vous citiez tout à l'heure, c'est Le Vieux Nègre et la Médaille, qui a été publié en 1956. Ça se concentre sur la date symbolique du 14 juillet, fêtée dans un district éloigné. Ce jour-là, Mecca, qui a donné du terrain aux missionnaires pour leurs églises et dont les deux fils sont morts à la guerre, est d'abord heureux d'être honoré par une médaille de reconnaissance de la France, à laquelle tous ses proches applaudissent, et en deux jours, après une cérémonie qui tourne au grand guignol et une nuit d'humilisation, le vieil homme prend conscience que ce 14 juillet n'est qu'en fait qu'une mise en scène hypocrite des pouvoirs coloniaux qui parlent d'amitié en maintenant une stricte exclusion des colonisés. Voilà un peu le pitch du vieux nègre et la médaille de Ferdinand Oyono. Merci Nwaku pour ce souvenir et cette référence. Bonne journée à vous. On a bien entendu Nwaku, vous voyez, dans cette nomination de Louise Mushikiwabo, finalement une amnésie aussi parfois des Africains qui se plient aux desiderata de l'État français. Hassan, qu'en pensez-vous, vous ? Bonjour Hassan.
Bonjour à tous les auditeurs aussi.
Alors, la ligne n'est pas très bonne aujourd'hui, Hassan. Que pensez-vous du retour justement du Rwanda au premier plan, comme vous l'avez dit ?
Oui, c'est un élément très important. Ça permet de consolider encore une fois la compagnie. C'est un retour qui est triomphal parce que d'avoir le directeur et puis le secrétaire général, donc c'est un élément très important. Nous avons que le Rwanda a fait beaucoup de dynamisme dans le domaine de l'économie et surtout cherche à être un pays émergent dans les années à venir. Il va essayer d'apporter des solutions et surtout.
Alors, Hassan, je ne vais pas pouvoir vous garder plus longtemps. Je suis désolé, la ligne est très mauvaise. Je ne suis pas sûr que les auditeurs derrière leur radio comprennent bien ce que vous dites. Mais en tout cas, ce que vous soulignez à l'instant, c'était les réussites économiques du Rwanda qui aspire à être un pays émergent et que finalement, cette nomination de Louise Mushikiwabo est aussi une victoire diplomatique pour le Rwanda. On termine, on ferme ce sujet OIF avec Malik. Ensuite, Monsieur Diarra nous parlera du Mali. Et on a retrouvé Monsieur Camara. Malik, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour Malik. Stéphanie. Oui, moi j'appelais en fait Stéphanie pour dénoncer un peu, en fait, dénoncer, regretter un peu que l'élection de la ministre du Rwanda, la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, dans ce contexte et dans les conditions elle a été nommée, honnêtement, ça n'honore pas la francophonie. Déjà, on ne fait pas, moi j'ai pas vu en fait, on n'a pas fait le bilan on n'a pas critiqué, on n'a pas dit à Michaël Jean, elle a failli sur tel point.
Elle était plutôt critique, notamment sur la RDC, on dit qu'elle n'a pas été assez ferme en matière de respect de la démocratie et qu'elle préférait se rendre à des cocktails plutôt que avoir une véritable volonté.
Non, mais bon, moi je trouve que ça c'est un peu, c'est de bonne guerre. on exagère un peu, c'est vrai, on lui a reproché des achats, des petites choses comme ça. Mon début de mandat, mais je pense qu'elle s'est corrigée avec le temps. Et puis bon, on peut pas lui reprocher de soutenir un pays pas démocratique et puis procéder de la sorte à une élection. Il faut, c'est là où ça fait un peu rire. Donc moi, en fait, ce que je regrette, c'est que, voilà, et puis ce discours où on nous dit on veut une africaine, c'est pas forcément vouloir une africaine, hein. C'est pas parce qu'on désigne un africain ou une africaine. Moi, je suis africain, hein, à un poste de responsabilité que les intérêts de l'Afrique sont défendus. Après, il faut voir qu'est-ce qui est fait concrètement. C'est ça, en fait. L'Union africaine, moi, je regrette un peu comme ça que, voilà, on dit c'est une africaine. Donc,
ouais, d'autant qu'il y avait pendant longtemps Abdou Diouf à la tête de l'OIF.
Ben oui, il y avait longtemps. Et souvenez-vous, à l'époque, il y avait Boutros Ghali qui avait été élu, en fait, dans les mêmes conditions.
C'est même la tradition de confier l'OIF à un Africain.
Oui, mais c'est pas forcément. Moi, je dis, bon, pourquoi pas, mais attendez, on peut pas lui reprocher. On lui reproche quoi, en fait? Elle n'était pas africaine. Qu'est-ce qu'elle a pas fait de bon? Qu'est-ce que, voilà.
Et que peut faire la francophonie en plus? De quels moyens dispose la francophonie?
C'est ça, en fait. Moi, ce que je regrette, Stéphanie, ce que je regrette, c'est vrai. Le Rwanda a le droit. Hein. Moi, je suis pas dans ce débat. Ils parlent anglophone. En fait, dans ce débat un peu paternaliste des Africains qui estiment qu'ils sont plus en droit parce que le Rwanda. Non, moi, je suis pas dans ce débat. Le Rwanda a le droit de venir. Ils peuvent. Ils sont dynamiques. Ils ont une bonne politique. Ils ont une bonne diplomatie. Pourquoi pas? Mais en fait, c'est la manière. Si le Rwanda avait fait campagne sans soutien un peu intempestif, par exemple, du président Macron et de l'Union africaine, si elle avait fait campagne sur sa personne, si elle avait été convaincante, si elle avait défait Michaël Jean, moi, ça ne me dérangerait pas. Mais là, en fait, on pousse Michaël Jean à la sortie pour la mettre à sa place. Et ça, c'est un peu dérangeant.
On voit Michaël Jean parlait d'arrangements, hein, entre États.
C'est ça, en fait, c'est des arrangements par rapport à une situation politique. Bon, on veut symboliser un peu la réconciliation entre la France et le Rwanda. Et puis, c'est aussi un marché important, assez dynamique, l'Est de l'Afrique. Le Rwanda a des réussites économiques. Mais tout ça n'est pas suffisant pour bousculer les choses, pour marcher un peu. On ne peut pas faire le reproche à l'autre, elle n'est pas assez, elle soutient des régimes pas très démocratiques et procéder de la sorte. Ça, je suis désolé, il y a un problème. Et ça n'arrange pas, en fait, la francophonie. C'est ça, c'est l'image qu'on donne avec toutes ces années qui passent. Voilà, on donne l'image d'une institution, encore une fois de plus, ringarde, avec des pratiques qu'on dénonce au niveau des États, au niveau de plein d'institutions comme ça.
Et puis une institution, malheureusement, je vous interromps, Marie, parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission, mais on a bien compris, et puis effectivement, vous dites que ça n'arrange pas la francophonie. Certains veulent y voir dans la francophonie une espèce de zone comme ça, culturelle, où tous les peuples seraient ensemble. Et finalement, le soutien d'Emmanuel Macron à Louise Mushikiwabo laisse encore sous-entendre que l'OIF est une sorte de prolongement de la diplomatie française. Merci beaucoup, Malik. On aura peut-être le temps de revenir sur l'OIF avec Philippe dans quelques instants. Avant cela, il y a Monsieur Diarra qui patiente depuis de longues minutes pour nous parler de ce découpage territorial au Mali. C'est un document de l'Assemblée nationale qui a circulé et qui double le nombre de régions, je crois, au Mali. Et c'est un découpage qui fait suite à l'accord d'Alger. Monsieur Diarra, bonjour.
Bonjour, madame. Bonjour, Africa numéro 1.
Bonjour, Monsieur Diarra.
Madame Diarra, c'est avec un réel plaisir de vous entendre.
Le plaisir est partagé, Monsieur Diarra. Ce découpage territorial vous inquiète-t-il? Va-t-on vers un démembrement du Mali?
Madame, découpage territorial est tout simplement synonyme de division. Division de nous diviser encore beaucoup plus davantage, madame, dans notre pays. Nous ne sommes plus besoin. Au lieu d'y mettre en place un véritable projet de développement réel, pour notre pays, il nous saoule avec ces découpages territoriaux.
Est-ce qu'on ne donne pas plus de poids aux... Alors, d'après ce que j'ai compris, Monsieur Diarra, je ne suis pas très bien penché sur le sujet, mais est-ce qu'on ne donne pas plus de poids aux régions du Nord?
Madame, région du Nord, il y a des régions qui ont été créées l'année dernière au Nord. Jusqu'à présent, madame, nous n'arrivons pas à avoir une véritable développement, une véritable politique réelle pour pouvoir booster l'économie de notre pays. Au contraire, il nous engouffre beaucoup plus davantage vers une destination inconnue.
Beaucoup d'inquiétudes, Monsieur Diarra, on l'entend. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Je vous souhaite une bonne journée, Monsieur Diarra.
Merci, madame. Je vous souhaite également et bon week-end à tout le monde.
Bon week-end à vous aussi, Monsieur Diarra. Prenez soin de vous. Profitez des vôtres, c'est important, ces temps en famille élargie, bien sûr. Monsieur Camara, bonjour.
Bonjour.
Ah, alors, pouvez-vous couper votre radio, s'il vous plaît, monsieur Camara ?
C'est bon.
Alors, vous étiez inscrit, mais la ligne a été coupée tout à l'heure. Et vous vouliez revenir sur les élections de ce week-end en Côte d'Ivoire. On en a déjà beaucoup parlé en début d'émission. Beaucoup d'auditeurs dénonçaient le climat de violence. C'est ce que vous vouliez dire aussi.
Oui, moi, ce que je veux dire, c'est que on a toujours dit aux gens que depuis l'arrivée du président Ouattara, en Côte d'Ivoire, en ce moment, tout se fait par violence. C'est-à-dire que vous êtes candidat. Si vous n'êtes pas candidat dans la mouvance présidentielle, vous êtes menacé systématiquement. Et moi, je n'ai jamais vu ça quelque part dans le monde. C'est-à-dire qu'ils veulent rester tout seuls au pouvoir. Et puis bon, ils sont au pouvoir, au lieu de chercher à développer la Côte d'Ivoire, au lieu de chercher à réconcilier les Ivoiriens, c'est toujours la violence. Dès que vous parlez de quelque part, on vous menace tout de suite. Moi, c'est qu'en fait, ils n'ont rien à faire, quoi. Allô ?
Oui.
Ce qui est mauvais, c'est que dans son gouvernement, il n'y a que des
nordistes.
Il n'y a que des nordistes.
On a dénoncé une sorte de ce qu'on appelait un peu le régionalisme, hein, effectivement, hein, qui a marqué ce pouvoir ivoirien. Je vous interromps, monsieur Camara, je vous remercie, parce qu'on a Vekam, on a retrouvé Vekam, qui voulait nous parler rapidement, bonjour Vekam, de l'expulsion des Congolais. Hein, 78 000 personnes ont traversé la frontière angolaise en 10 jours, selon le HCR. Bonjour Vekam.
Ah. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous les auditeurs de l'Afrique Grande numéro 1.
Bonjour Vekam, alors rapidement votre commentaire sur ces expulsions.
Merci de la parole que vous m'accordez. Je sais que, à propos de ce que je venais de parler, il y a eu expulsion de 7 des Congolais de l'Angola, ce qui inquiète à ce que... Vous voyez, par exemple, nous sommes dans deux pays africains, bien sûr, mais il faut qu'il y ait de l'ordre quand il faut... En quelque sorte, c'est les gens. On peut les faire sortir bonhomment, et ils récupèrent leur milieu habituel. Il y a eu des tueries au niveau de frontières de l'Angola. Les gens vivent dans des situations là difficiles. Vous voyez que la région du Kasaï a été une région de guerre, de phénomène Kamuina Sapu. Vous êtes en ignoré que il y a eu beaucoup de gens qui s'étaient rendus en Angola.
Il y a beaucoup de violence et de désordre. Mais merci Vekam, malheureusement on arrive à la fin de l'émission. Je ne peux pas vous écouter plus longtemps, mais on essaiera peut-être de reparler effectivement sur ces expulsions à la frontière angolaise. Je propose à Philippe et à Koulou de garder la ligne, on va les inscrire pour lundi. Car lundi on va revenir justement sur la francophonie et la nouvelle secrétaire générale. Voilà, en attendant je vous souhaite un bon week-end à l'écoute des programmes d'Africa numéro 1, la seule, l'unique radio africaine. À lundi.